Cythérée voulut tirer de son injure une vengeance mémorable. Phébus l'avait trahi dans ses amours secrets. Phébus sera trahi dans de semblables amours. Ô fils d'Hyperion, que te servent désormais ta beauté, ton éclat, ta lumière immortelle? Toi, dont les feux embrasent la nature, tu te sens brûlé d'un feu nouveau. Toi, dont l'œil doit embrasser le monde, tu ne vois plus que Locotoé, et tu arrêtes sur une jeune mortelle les regards que tu dois à l'univers. Pour elle, tu parais plus matin à l'Orient. Pour elle, tu descends plus tard dans les ondes. Tu prolonges les jours de l'hiver pour la voir plus longtemps. Quelquefois même, tes chagrins obscurcissent tes traits. Les sombres ennuis de ton cœur se communiquent à tes rayons. Ta lumière affaiblie épouvante les humains. Et ce n'est point Phébé qui te couvre de son ombre, c'est l'amour seul qui produit ta pâleur. Tu n'aimes que Locotoé. Ce n'est plus ni Climène, ni Rhodos, ni la brillante mère de Circé qui règne sur ton cœur. En vain, Clytie soupire encore pour toi. En vain, depuis longtemps profondément blessée, elle gémit implorant la fin de tes mépris. Locotoé l'emporte, et tout le reste est oublié. La plus belle femme de l'Arabie, Eurynome, lui donna le jour. Elle grandit, et bientôt le temps développa ses charmes. Bientôt, par sa beauté, Locotoé surpassa sa mère, comme sa mère surpassait les femmes de l'Orient. Son père, Orchamus, qui régnait sur la Perse, était le 7e descendant du vieux Bélus. C'est sous l'axe de l'Hespérie que sont les pâturages des coursiers du soleil. Ils s'y nourrissent d'ambroisie. Ces sucs délicieux leur donnent de nouvelles forces et les délassent des fatigues du jour. Tandis qu'ils se repaissent du céleste aliment et que la nuit étend son voile sur l'univers, Phébus, prenant les traits d'Eurynome, se rend au palais de Locotoé. Il la voit au milieu de 12 esclaves qui filaient à la clarté des flambeaux. Après lui avoir donné quelques baisers, comme une tendre mère en donne à sa fille chérie, « Je veux, dit-il, te parler en secret. Esclaves, éloignez-vous. Et n'empêchez pas une mère de causer librement avec son enfant. » Les esclaves obéissent. À peine le dieu est-il seul avec elle et sans témoin. « Je suis, dit-il, celui qui mesure les jours, les saisons et les ans, celui qui voit tout et par qui l'on voit tout dans le monde. Je suis l'œil de l'univers. Je vous aime, gardez-vous d'en douter. » Locotoé pâlit, sa main tremblante laisse échapper et sa quenouille et ses fuseaux. Son timide embarras l'embellit encore. En ce moment, le dieu reprend sa forme immortelle. Locotoé est effrayée de ce changement soudain, mais vaincue par l'éclat dont il brille, elle ne sait plus se défendre et cède à son amant. Clytie aimait encore, son amour s'irritait, aigri par le triomphe de sa rivale. Elle voulut le publier, elle osa le dénoncer à Orchamos. Ce père cruel et sans pitié fait saisir sa fille. En vain, tendant les bras vers l'astre du jour, elle s'écrie. Il employa la violence, il triompha malgré moi. Le barbare, l'ensevelissant vivante dans la terre, d'un sable pesant fit couvrir son tombeau. Le soleil, par la force de ses rayons, travaille à te dégager, à t'ouvrir un chemin à la lumière, à la vie. Mais accablé sous le poids qui te couvre, nymphe infortunée, tu ne peux soulever ta tête, et déjà tu n'es plus. Depuis la mort funeste de Phaéton, le dieu dont la main guide les rapides coursiers du jour n'avait point éprouvé, dit-on, de douleur si profonde. Il essaie encore, en redoublant les traits de sa lumière, de ranimer ses membres glacés, d'y rappeler la chaleur et la vie. Mais le destin jaloux s'oppose à tous ses efforts. Le dieu épanche alors sur le sable et sur le corps de son amante un nectar odorant. Et après de longs gémissements, « Du moins, dit-il, tu porteras ta tête vers le ciel. » En ce même moment, le corps de la nymphe s'amollit, pénétré d'une essence divine. La terre en est parfumée. Un arbre dans son sein étend ses racines, perce la tombe, s'élève et distille l'encens. Quoique l'amour pût excuser Clytie, quoique le repentir de sa faute fût digne de pardon, le dieu du jour s'éloigna d'elle et la laissa tout entière en proie aux fureurs de Vénus. Désespérée, fuyant les nymphes, ses compagnes, les cheveux épars sur son sein dépouillé, elle s'assied sur la terre, et le jour et la nuit, elle y reste nue, exposée aux injures de l'air. Déjà Phébus avait recommencé sa carrière. Insensible à la faim, à la soif, Clytie n'avait nourri son jeûne que de pleurs et de rosées. Toujours assise sur le même gazon, elle suivait dans son cours ce soleil qu'elle adore, et ses regards étaient continuellement tournés vers lui. Enfin, ses pieds s'attachent à la terre. Son corps n'est plus qu'une longue tige sans couleur, mais elle semble encore chercher l'astre du jour, et vers lui incessamment, elle incline son diadème d'or. Ce n'est plus qu'une fleur, mais pourtant c'est encore une amante.